Strophe 44.
Mais voici, d'un taillis voisin, une jeune cavale robuste, belle et fière, aperçoit le coursier impatient d'Adonis. Elle accourt, s'ébroue et hennit. Le coursier vigoureux, attaché à un arbre, brise ses rênes et va droit à elle. Il s'élance, il hennit. Le voilà qui bondit avec orgueil. De son dur sabot rompt la courroie de la sangle. Triomphant de ce qui le régissait, il frappe la terre dont les cavités résonnent comme le tonnerre du ciel. Il broie entre ses dents le fer de son mort tressé. Ses oreilles se dressent, les flots de sa crinière se hérissent sur son cou recourbé, replié. Ses naseaux aspirent l'air et, comme une fournaise, rejettent d'épaisses vapeurs. Son œil superbe, qui étincelle comme le feu, montre son ardent courage et le transport qui l'agite. Tantôt il trotte, comme s'il comptait ses pas, avec une majesté calme et une modeste fierté. Puis il se cabre, fait des courbettes et s'élance comme s'il disait « Voyez, telle est ma force. C'est ainsi que je cherche à captiver le regard de la belle cavale. » Que lui importe maintenant son cavalier irrité qui l'appelle, ses flatteurs « Hola !» ou ses cris « Arrête-toi, entends-tu » Que lui importe les rênes et la pointe aiguë de l'éperon, son riche harnais et son caparaçon brillant. Il voit celle qu'il aime et ne voit qu'elle. Seule elle plaît à ses orgueilleux regards. Voyez le tableau où un peintre aurait voulu surpasser son modèle, en peignant un coursier bien proportionné. Son art lutte contre l'œuvre de la nature, comme si les morts pouvaient l'emporter sur les vivants. Ce même coursier était au-dessus d'un coursier ordinaire par ses formes, son courage, sa couleur, son allure et sa vigueur. Sabots arrondis, articulations courtes, fanon velu et long, large poitrail, œil grand, tête petite, naseau bien ouvert, encolure haute, oreilles courtes, jambes fortes et déliées, crinière claire, queue épaisse, croupe arrondie, peau fine. Il avait tout ce qu'un cheval doit avoir, excepté un fier cavalier sur son dos orgueilleux. Quelquefois il s'éloigne, et de là il regarde avec surprise. Puis il bondit au mouvement d'une plume. Bientôt il se prépare à défier le vent, et on ne sait plus s'il court ou s'il vole. Le vent siffle entre sa crinière et sa queue, soulevant les crins qui se déploient comme des ailes emplumées. Il regarde celle qu'il aime et lui adresse ses hennissements. Elle lui répond comme si elle devinait sa pensée. Fière, comme le sont les femmes, de se voir recherchée, elle feint le caprice, fait la cruelle, repousse son amour, dédaigne l'ardeur qu'il éprouve et répond par des ruades à ses amoureuses caresses. Alors, triste et mécontent, il baisse sa queue qui, telle qu'un panache flottant, prêtait une ombre bienfaisante à sa croupe en sueur. Il frappe du pied et mord dans sa rage les pauvres mouches. La cavale, voyant sa fureur, se rend plus complaisante et sa colère est apaisée. Son maître impatienté va pour le ressaisir, lorsque soudain la cavale indomptée, pleine de terreur et craignant de se voir saisie, s'enfuit rapidement. Le cheval la suit et laisse Adonis. Tous deux, comme égarés, se dirigent vers le bois et dépassent les corbeaux qui cherchent à voler plus vite qu'eux. Essoufflé de sa course, Adonis s'assied, maudissant son coursier impétueux et indomptable. Voici de nouveau une bonne occasion qui s'offre à l'amour malheureux d'obtenir le bonheur qu'il implore. Car les amants disent que le cœur a trois fois tort quand il est privé du secours de la langue. Un four que l'on ferme n'en est que plus brûlant. Une digue ne fait qu'augmenter la fureur d'un fleuve. On en peut dire autant d'une douleur cachée. La liberté de la parole calme le feu de l'amour. Mais quand l'avocat du cœur est muet, le client se meurt, son affaire est désespérée. Il la voit venir et recommence à rougir, de même qu'un charbon mourant que le vent rallume. Il cache son front irrité avec sa toque et se tourne vers la terre d'un air chagrin, sans prendre garde à elle, bien qu'elle soit tout près, car il ne saurait la regarder avec des yeux favorables. Oh, quel spectacle c'était de la voir s'avancer en cachette vers le fantasque jeune homme et d'observer les couleurs changeantes de ses joues, comme le rouge et le blanc se détruisaient l'un l'autre. La pâleur enfin y domine. Mais de temps en temps, ses yeux lancent des flammes, comme s'il passait un éclair dans le ciel. La voilà devant lui, et il est assis. Comme le ferait une amante timide, elle s'agenouille. Avec une de ses belles mains, elle relève sa toque. L'autre douce main caresse ses joues vermeilles. Ses joues délicates reçoivent l'impression de cette tendre main, comme la neige fraîchement tombée garde toute empreinte. Oh, quelle guerre de regards se déclara alors entre eux. Les yeux de Vénus implorent ceux d'Adonis, qui la regardent comme s'ils ne la voyaient pas. Ses yeux le conjurent encore, mais ses regards dédaignent ses prières. Toute cette pantomime est expliquée par les larmes que les yeux de Vénus répandent comme ceux d'un cœur de tragédie. Elle le prend doucement par la main. C'est un lys enfermé dans une prison de neige, ou une main d'ivoire dans un cercle d'albâtre, tant l'amie est blanche qui presse sa blanche ennemie. Cette lutte charmante entre celle qui veut et celui qui ne veut point ressemblait aux ébats de deux colombes argentées qui se becquettent. Bientôt, l'interprète des pensées de Vénus reprend « Ô toi, le plus beau de tous ceux qui se meuvent sur le globe de la terre, que n'es-tu ce que je suis, et moi un homme ? Mon cœur intact comme le tien, et ton cœur atteint de ma blessure. Pour le prix d'un doux regard, je t'assurerai mon secours lorsque la pâte de mon corps pourrait seule te sauver. Rendez-moi ma main, dit Adonis, pourquoi l'appréciez-vous ? Demande-moi mon cœur, dit-elle, et tu l'auras, ou rends-le-moi de peur que ton cœur inflexible ne l'endurcisse. Une fois endurci, de tendres soupirs ne pourraient plus le pénétrer. Les sanglots de l'amour me trouveraient insensible, parce que le cœur d'Adonis aurait endurci le mien. « Fis donc, s'écrie-t-il, laissez-moi, et laissez-moi aller. Le plaisir de ma journée est perdu. Mon cheval a fui, et c'est par votre faute que j'en suis privé. Je vous en prie, quittez-moi, et laissez-moi seul ici. Car tout mon souci, toute ma préoccupation, toute mon idée, c'est de reprendre mon cheval à cette jument. » Vénus lui répond, « Ton pâle froid t'abandonne comme il le doit aux douces ardeurs du désir. L'amour est un charbon qu'il faut refroidir, sinon il met tout le cœur en feu. La mer a des bornes, mais le profond désir n'en a point. Ne sois donc pas surpris si ton coursier est parti. Comme il avait l'air d'une rosse attachée à un arbre, esclave soumis à des rênes de cuir. Mais dès qu'il a vu la cavale, noble prix de sa jeunesse, il a dédaigné sa honteuse servitude, secoué de son col arqué ses misérables liens, et il a affranchi sa bouche, sa croupe et son poitrail. Après avoir vu sa bien-aimée dans sa couche, montrant à ses draps une nuance plus blanche que le blanc, quel est celui dont les yeux avides n'inspirent pas à ses autres sens le désir d'une égale jouissance? Quel est l'homme assez lâche pour ne pas avoir le courage de s'approcher du feu quand il fait froid? Laisse-moi donc excuser ton coursier, aimable enfant, et apprends de lui, je t'en conjure, à profiter de la félicité qui s'offre à toi. Quand je resterai muette, sa conduite suffirait à t'instruire. Oh, apprends à aimer. La leçon en est facile. Une fois qu'on la sait, on ne l'oublie jamais. Je ne connais pas l'amour, dit-il. Je ne veux pas le connaître, à moins que ce ne soit un sanglier. Alors je lui ferai la chasse. C'est un gros emprunt, je ne veux pas faire de dette. Je n'ai d'autre amour que l'amour d'en mal parler, car j'ai entendu dire que c'était une vie dans la mort, et qu'on riait et qu'on pleurait de la même haleine. Qui porte un habit mal fait et non fini? Qui cueille le bouton avant que les feuilles soient poussées? Si les choses qui croissent sont mutilées, elles se flétrissent dans leurs fleurs, et n'ont plus aucune valeur. Le poulain qui est monté et chargé dans sa jeunesse perd sa fierté et jamais ne devient fort. Vous me faites mal à la main en la pressant. Séparons-nous et laissons ce vain sujet et ces frivoles discours. Levez le siège que vous avez mis devant mon cœur inflexible. Il n'ouvrira point ses portes aux alarmes de l'amour. Renoncez à vos vœux, à vos larmes feintes, à vos flatteries, car elles n'ont point d'effet lorsque le cœur est jeune. « Quoi ? Tu sais parler ? » répond-elle. « As-tu donc une langue ? Oh, que n'en as-tu point ! Ou plutôt que je n'eusse point d'oreille. Ta voix de sirène m'a doublement blessé. J'étais assez chargé tout à l'heure, sans ce surcroît qui m'accable. Mélodieuse dissonance, célestes accords rudes effets, douce harmonie pour l'oreille qui blesse profondément le cœur. Si je n'avais point Dieu, si je n'avais que des oreilles, mes oreilles adoreraient cette beauté invisible et intérieure. Ou, si j'étais sourde, tes charmes extérieurs toucheraient en moi tout ce qu'il y a de sensible. Quoique sans yeux et sans oreilles pour voir ou pour entendre, je t'aimerais encore rien qu'en te touchant. Suppose maintenant que le sens du toucher me soit ravi, que je ne puisse ni voir, ni entendre, ni toucher, qu'il ne me reste que l'odorat. Mon amour pour toi n'en serait pas moins vif, car de la distillerie de ton adorable visage sort une haleine parfumée qui excite l'amour par l'odorat. Mais quel banquet n'offrirais-tu pas au goût, puisque tu nourris et alimentes les quatre autres sens? Ne désirerait-il pas que le festin fût éternel, en ordonnant au soupçon de fermer la porte à double tour, de peur que la jalousie, cette hôte sombre et malvenue, ne se glissât parmi eux pour troubler la fête? Encore une fois s'ouvrit le portique couleur de rubis, qui avait déjà donné passage aux doux accents de son discours. Semblable à une aurore rougeâtre qui prédit toujours le naufrage aux marins, la tempête aux campagnes, les regrets aux pasteurs, la désolation aux oiseaux, le vent et les bourrasques aux troupeaux et aux bergers. Prudemment, elle observe ce sinistre présage. De même que le vent se tait avant la pluie, que le loup entr'ouvre les dents avant de hurler, que la baie se fend avant de faire tache, ou comme la balle meurtrière d'un fusil, ce qu'il allait dire la frappe avant qu'il eût parlé. Elle tombe par le seul effet de son regard. Car les regards tuent l'amour, et l'amour ressuscite par des regards. Un sourire guérit la blessure produite par des sourcils froncés. Heureuse faillite que celle qui enrichit l'amour. Le pauvre enfant, croyant qu'elle est morte, presse ses joues pâles jusqu'à leur rendre leur vermillon. Tout étonné, il renonce à sa première intention, qui était de la réprimander vertement. Ce que prévint l'astucieux amour. Honneur à la ruse qui sut si bien la protéger. Car elle reste étendue sur le gazon, comme si elle était morte, jusqu'à ce que le souffle d'Adonis la rappelle à la vie. Il lui serre le nez, la frappe sur les joues, plie ses doigts, lui presse l'artère, réchauffe ses lèvres, et cherche mille moyens pour réparer le mal qu'ont causé ses duretés. Il lui donne un baiser. Volontiers, elle ne se relèverait plus, pourvu qu'il l'embrasse encore. À cette nuit de chagrin succède le jour. Elle entr'ouvre doucement ses deux fenêtres bleues, semblables au soleil lorsqu'à son éclatant retour, il charme le matin et console l'univers. De même que le brillant soleil embellit le ciel, l'œil de Vénus illumine son visage. Elle en tourne les rayons sur son visage sans barbe, comme s'il lui empruntait tout son éclat. Jamais quatre astres aussi beaux n'auraient été réunis si Adonis n'avait voilé les siens en abaissant ses sourcils. Mais ceux de Vénus, qui brillaient à travers le cristal de ses larmes, resplendissaient comme la lune réfléchie dans l'eau pendant la nuit. « Où suis-je donc ? » dit-elle. « Sur la terre ou dans le ciel ? Suis-je dans l'océan ou dans le feu ? Quelle heure est-il ? Est-ce le matin ou le soir fatigué ? Suis-je ravi de mourir ou désirais-je la vie ? Tout à l'heure je vivais, et ma vie était assurée contre la mort. Tout à l'heure je mourais, et la mort m'était un ravissement. Oh, c'était toi qui me tuais ! Fais-moi mourir encore ! L'habile maître de tes yeux, ton cœur inflexible, a su leur enseigner des regards dédaigneux et un tel mépris qu'ils ont assassiné mon pauvre cœur. Et mes yeux, fidèles guides de leur reine, auraient été à jamais privés de la vue sans la compassion de tes lèvres. Puissent-elles se baiser longtemps pour prix de cette cure. Oh, ne laisse jamais flétrir leur incarnat. Et puisse leur fraîcheur dissiper tant qu'elles dureront les influences dangereuses de l'année. Les astrologues qui ont écrit sur la mort diront que la peste est bannie par ton souffle. Lèvres pures, sceaux délicieux imprimés sur mes lèvres, quel marché pourrais-je faire pour obtenir encore leur empreinte? Me vendre moi-même? Ah, j'y consens, pourvu que tu veuilles m'acheter, me payer et en bien user envers moi. Si tu fais cette acquisition, de crainte de méprise, applique bien ton sceau sur mes lèvres vermeilles. Avec 1000 baisers, tu peux acheter mon cœur et les payer à ton loisir l'un après l'autre. Que sont pour toi 10 fois 100 baisers? Ne sont-ils pas bien vite comptés, bien vite donnés? Convenons qu'en cas de non-paiement, la dette sera double. 2000 baisers te donneraient-ils tant de peine? Belle reine, dit-il, si vous me devez quelque amour, que mes jeunes années vous expliquent mes bizarreries. Ne cherchez pas à me connaître avant que je me connaisse moi-même. Il n'est pas de pêcheur qui n'épargne le fretin. La prune mûre tombe, la verte tient à la branche. Ou si elle est cueillie trop tôt, elle est aigre au goût. Voyez, le consolateur du monde achève à l'Occident, d'un pas fatigué, sa brûlante carrière de la journée. Le hibou, héros de la nuit, crie qu'il est tard. Les troupeaux sont rentrés dans leur bercail, les oiseaux dans leur nid. Les noirs nuages qui voilent la lumière du ciel nous somment de nous séparer et de nous dire bonsoir. Laissez-moi donc vous dire bonne nuit. Et dites-en de même. Si vous y consentez, vous aurez un baiser. Bonne nuit, répond Vénus. Et avant qu'il ait dit adieu, elle lui offre le doux gage du départ. Ses bras se croisent autour du cou d'Adonis. Elle semble s'incorporer avec lui. Leurs visages se touchent. Enfin, hors d'haleine, il se dégage et retire la rosée céleste, cette jolie bouche de corail, dont les lèvres avides de la déesse connaissaient bien le parfum délicieux. Elle s'en désaltère et se plaigne cependant de la sécheresse. Adonis, accablé de caresses, elle, épuisée par sa froideur, tous deux tombent à terre avec leurs lèvres collées ensemble.